L'association Pour une communauté plurielle a accueilli à Strasbourg Florence Bergeau-Blaquer, anthropologue chargée de recherche au CNRS, pour une conférence autour de son dernier livre « Le frérisme et ses réseaux », introduite par la journaliste Sophie Rosenzweig.
Tout d'abord, merci pour votre présence ici à Strasbourg. Depuis la parution de votre livre, en fin janvier de l'année dernière, vous êtes menacé de mort. Donc ce n'est pas rien d'être ici aujourd'hui et nous vous en remercions parce qu'on sait ce que ça veut dire de vivre avec une protection policière, on y reviendra tout à l'heure. Mais d'abord je vais vous présenter, vous êtes anthropologue, chercheuse au CNRS, spécialiste depuis 30 ans des frères musulmans, donc vous êtes une scientifique et vous travaillez sur les faits et non pas sur les émotions. Alors on va commencer tout de suite par la première question, c'est quoi la pensée frériste ?
C'est vrai qu'on est dans une période particulièrement instable, difficile, et il y a besoin de temps en temps de replacer un petit peu les faits, de revenir à quelque chose qui nous rassemble, c'est-à-dire la connaissance, la science. Parce que je pense qu'il y a dans ce livre-là, qui est sorti bien avant le 7 octobre, de quoi comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Cette montée assez difficile à anticiper de l'antisémitisme qui nous provient, pour moi c'est assez clair, ce qu'on appelle le nouvel antisémitisme, essentiellement de l'islam et en particulier de l'islamisme. Donc il y a un lien entre ce que je vais vous raconter là, ce que je vais vous dire, ce que je vais vous exposer et ce que nous vivons aujourd'hui. Qui a conduit à une déstabilisation quand même jusqu'à ce que même notre président décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Parce qu'il ne faut pas oublier cette déstabilisation, on l'a vu précisément dans les rangs sur les bancs de l'Assemblée nationale quand il était juste impossible d'organiser des débats sereins. Le résultat des urnes est relié justement à ces images déplorables de notre classe politique. Ce à quoi nous avons affaire, le frérisme et son antisémitisme, j'aurais pu appeler ça comme ça ce soir, c'est quelque chose que nous, citoyens, nous devons combattre. Et je ne pense pas que nous devions compter encore sur nos politiques pour qu'ils fassent ce travail-là. Donc « Le frérisme et ses réseaux », c'est un livre qui est sorti donc en janvier 2023, mais je vais vous rappeler ou donner quelques éléments de définition de ce que j'appelle le frérisme. D'abord, les frères musulmans, je les ai rencontrés pour la première fois, c'était il y a 30 ans, à la mosquée El Houda de Bordeaux. Cette mosquée venait d'être construite et était dirigée par des jeunes étudiants marocains qui, par ailleurs, tenaient également une mosquée sur le campus de Talence. L'association des musulmans de la Gironde était donc liée à l'Union islamique des étudiants de France qui avait donc son quartier général sur le campus de Talence. Moi, je devais à l'époque choisir un sujet de maîtrise, on disait à l'époque, et j'avais choisi, moi qui venais de l'informatique dans l'aéronautique, j'avais complètement changé d'orientation et j'avais choisi à cette époque-là de m'intéresser aux voiles islamiques. C'était 3-4 ans après 1989, la fameuse affaire des foulards de Creil, qui avait suscité un débat, surtout à gauche d'ailleurs, entre deux gauches qui s'affrontaient déjà. Une gauche qui disait « laissons ces filles avec leurs foulards à l'école parce qu'au moins elles vont s'émanciper » et une gauche qui disait « attention, il y a derrière tout ça des mouvements islamistes, ne capitulons pas hein. ». C'était la position d'Elisabeth Badinter, d'Alain Finkielkraut, etc. Quand je commence mes études, je suis anthropologue et la méthode d'anthropologie, c'est ce qu'on appelle l'observation participante, c'est-à-dire qu'on va dans le milieu qu'on souhaite étudier et on l'observe jusqu'à ce qu'on nous attribue un rôle. Et c'est de l'analyse de ce rôle en situation. C'est de cette analyse-là qu'on va tirer en fait la connaissance du milieu dans lequel on travaille. quand je suis arrivée à la mosquée El Houda, on m'a immédiatement invitée à passer par l'entrée des femmes et à fréquenter les sœurs musulmanes. Enfin, à l'époque, je ne sais évidemment pas que ce sont des sœurs musulmanes, je vois simplement des femmes dans une mosquée. Et assez rapidement, ils vont m'interroger beaucoup sur ce que je fais, et moi aussi je les interroge beaucoup sur ce qu'ils font, et je m'aperçois qu'ils ont une volonté de me convertir, de m'utiliser en fait dans leur système, disons, de dawa, c'est-à-dire de prédication, pour que ce qui se passe dans cette mosquée puisse être connu à l'université et vanté. Assez vite, je vais être invité à suivre les cercles de connaissances qu'ils appellent les halakhat. On m'apprend donc la littérature de Hassan al-Banna, de Saïd Qutb, dont je ne sais pas grand-chose, si ce n'est les éléments qu'on peut trouver dans le livre de Gilles Kepel, « Les banlieues de l'islam », qui est un livre important à l'époque parce que c'est le premier qui met en évidence la présence islamiste sur le territoire. Et quand je rapporte ça à l'université, à mon responsable de mémoire, il me dit « tu as dû tomber sur un petit nid d'intégristes, est-ce que tu ne veux pas aller voir ailleurs, là où il y a l'islam hein, ?» Parce que là, tu es mal tombé. Donc déjà, et puis fais attention parce que si ce sont des gens un peu radicaux, et si tu rapportes ce qu'ils disent, tu vas faire le jeu du Front National. Donc c'était déjà, à l'époque, il y avait déjà une volonté de ne pas faire sortir ce qu'on pouvait voir, observer et entendre dans cette mosquée. Évidemment, pour moi, je n'étais pas une jeune étudiante, j'avais déjà une vie antérieure, si vous voulez, et donc je n'ai pas écouté, évidemment, ces conseils, et j'ai poursuivi mes recherches. Je les suivais aux rencontres annuelles des musulmans de France, qui est un événement qui se déroulait chaque année et qui rassemblait l'ensemble des associations qui maillaient le territoire et qui étaient donc liées à l'Union des organisations islamiques de France. Donc je les ai suivis et c'était tout à fait particulier parce que alors que ce milieu ne devait pas exister, qu'il ne fallait pas en parler et que c'était juste une petite frange d'intégristes, en réalité ces gens-là attiraient des dizaines de milliers de fidèles partout en France et de Belgique et de Suisse aussi. C'est de là que je tire en fait toutes les connaissances que j'ai de ce milieu-là, qui n'est pas officiellement le milieu des frères musulmans, puisque l'Union des organisations islamiques de France a compris assez vite qu'il ne fallait jamais qu'il décline son identité, ses penseurs et tout ce qui les inspirait, parce que c'est évidemment dangereux. Vous savez que la confrérie est interdite dans plusieurs pays, notamment l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis. Que la publicité sur les frères musulmans est interdite en Autriche, par exemple, qui est le seul pays européen à avoir pris des mesures contre elles, des mesures pas très efficaces, puisqu'ils ne disent jamais qui ils sont. Je leur avais demandé « Est-ce que vous êtes les frères musulmans ?» Et ils m'avaient évidemment souri en me disant « Oui, nous sommes les frères en islam ». Il y avait donc aussi la possibilité de marier les enfants pour les petites filles, les petits garçons, donc des concours de Coran, et puis des stands sur des centaines, des milliers de mètres carrés de librairies avec des ouvrages essentiellement salafistes.
Pourquoi ce déni ?
Je pense que c'est parce qu'on ne comprend pas ce dont il s'agit. Et tout mon travail, ça va précisément être de définir ce qu'est le frérisme. Donc pour moi, le frérisme, c'est un islamisme. Alors qu'est-ce que c'est qu'un islamisme ? C'est un fondamentalisme, ou si vous voulez, un salafisme, mais qui a des perspectives politiques. Et je considère donc, je le définis comme ça, le frérisme comme un islamisme adapté aux sociétés, aux démocraties libérales, sécularisées et modernes. Avec les outils de la sociologie, je le considère comme un système d'action et donc pas comme un courant théologique. On pourrait dire il y a les réformistes, il y a les wahhabo-salafistes, il y a les soufis, etc. Moi, je considère que le frérisme, c'est un système d'action qui vise à rassembler l'ensemble de ces courants, de ces sensibilités, avec ses dispositions propres, pour un seul objectif, qui est le califat. le mouvement islamiste qui doit rassembler et lever l'Oumma pour qu'elle établisse dans le monde une société islamique mondialisée. Donc ce n'est pas le califat de Raqqa, cette espèce de truc qui finit en ruine. C'est quelque chose de beaucoup plus ambitieux et qui s'appuie sur la technologie et la modernité et la mondialisation. Donc en fait, si vous voulez, autant les djihadistes sont des gens dont on peut dire qu'ils détestent l'Europe et l'Occident, autant les frères aiment l'Europe, ils aiment l'Occident, ils veulent juste le changer, lui donner, le placer en fait sous la gouvernance divine. Il est originaire des campus, des pays non musulmans. Le moment où et la façon dont est pensé le frérisme, pour moi, je le situe au début des années 1960, en Europe et aux États-Unis, où les réfugiés politiques des pays musulmans, les islamistes réfugiés politiques, les frères musulmans notamment, mais pas que, il y a aussi les gens de la Jamaat islamique qui viennent du Pakistan, bref, toutes ces sensibilités islamistes sont pourchassées dans leur pays, pendues, assez violemment réprimées, et se retrouvent en fait tous ensemble sur les campus où ils ont une totale liberté de réunion et d'expression. Et c'est en fait de monter un plan pour reprendre le pouvoir dans leur pays d'origine. Et puis, petit à petit, ils vont, au fil du temps, s'interroger sur l'opportunité de revenir dans les pays d'origine, alors qu'ils risquent la prison ou la pendaison, comme ce sera le cas, par exemple, de Saïd Khrout, qui va passer quelques temps aux États-Unis et qui va rentrer et qui pourrira dans les geôles de Nasser, où il sera finalement pendu. Il est obligatoire pour un musulman d'aller vivre en pays musulman, et bien de faire venir l'islam en Europe, tout simplement, ou aux États-Unis. Donc faire venir l'islam en Europe, c'est, disons, transgresser un interdit, c'est transgresser une frontière. Vivre dans le Dar el-Harb, c'est-à-dire dans le territoire de la guerre, dans le territoire de mécréance, c'est interdit. Ils vont chercher dans la littérature et penser donc à ce qu'ils appellent le territoire de contrat, la terre de contrat, le Dar el-Harb, donc cet espace qui serait un espace intermédiaire entre ce qui n'est plus une terre de mécréance et qui n'est pas encore donc une terre d'islam. Cet espace intermédiaire, c'est ce que moi j'appelle la société charia compatible. Et pour eux, nous y sommes. Et pour nous aussi, d'une certaine manière, nous sommes dans cette société charia compatible que comptent appeler de leur vœu les frères. Le frérisme, c'est l'idéologie qui, dans la source, dans la racine, est la confrérie des frères musulmans. La confrérie des frères musulmans a été créée par un enseignant, instituteur, Hassan el-Banna, né en 1906, qui mourra assez jeune, en 1949, et qui va créer donc en 1928 la confrérie, ou la société, au début on dit la société des frères musulmans. Et ça se passe donc 4 ans après l'abolition du califat ottoman. Alors ça, c'est important parce que nous, on apprend à l'université l'abolition du califat ottoman. C'est un peu normal, société un monde qui se sécularise, qui se modernise. Bon, bah, très naturellement, les grands empires anciens meurent. Voilà. En réalité, dans la mentalité chez les musulmans, c'est quelque chose qui ne passe pas. Qui est insupportable et donc très immédiatement après la chute de ce califat dominé à l'époque par les Turcs et qui n'était pas en très bon état, il faut le dire, immédiatement, dès qu'il meurt, on veut recréer ce califat, mais avec des forces nouvelles qui s'appuieraient sur les savoirs des pieux anciens, ce qu'on appelle les salafis. Donc dès 1926, il y a des congrès à Jérusalem notamment, où on commence à imaginer ce que serait le prochain califat. 1928, c'est la création de cette sorte d'armée des frères musulmans, qui ne prend pas que les armes, qui utilise aussi les armes de la raison, du cœur, de l'aide, etc. Donc une confrérie qui a pour mission d'amener donc l'ensemble des musulmans vers l'islam. en développant une vision, une identité, un plan. Ce qui est intéressant pour donner un petit peu une idée de l'esprit de cette confrérie, c'est d'écouter Hassan El-Banna, la façon dont il l'a décrit auprès de ses disciples. Il dit « Nous ne sommes pas un parti politique, même si la politique pratiquée selon les règles de l'islam est au cœur de notre pensée. Nous ne sommes pas une association caritative, même si le travail caritatif est l'un de nos principaux objectifs. » Nous ne sommes pas un groupe sportif, même si le sport est un moyen pour nous. Nous ne sommes rien de tout cela, nous sommes une idée et un dogme, une ligne de conduite, un nizam, un système, qui ne peut être délimité et catégorisé. Il dépasse toute frontière géographique, il existera jusqu'à la fin des temps, car ce système est celui d'Allah. Donc les partis politiques ne sont pas la finalité, ce sont seulement des moyens vers le califat. L'association caritative est un moyen et le sport est un moyen. Tout ce que vous faites dans votre vie, toutes les actions, les actes, doivent être tournés vers ce moyen. Le frérisme, c'est donc une guidance. C'est un mouvement donc axé sur la mission. Nous sommes l'appel du Coran, disait El-Banna. Le temps importe peu, hein, puisque le chemin est tracé. Tout a été dit, l'ordre social a été donné dans le Coran, donc, qui est la parole divine. Le Coran n'est pas une interprétation humaine d'une parole divine. Le Coran, c'est la parole divine qui est tombée en arabe par le biais du prophète Mohammed. Les frères musulmans considèrent qu'il faut prendre en compte en première source le Coran et en seconde source la sunna, c'est-à-dire la tradition du prophète. Donc c'est le texte qui a raison et c'est en cela que les frères musulmans sont des salafis. Des fondamentalistes, dogmatiques et littéralistes. Il faut se concentrer sur l'action, ce qui donne à ce mouvement islamique une force phénoménale, parce que finalement c'est vers l'action et vers le califat qu'il faut se tourner. Si vous voulez comprendre ce que dit un frère, il faut toujours avoir en tête le fait que son objectif, c'est le califat. C'est un objectif à long terme, mais donc tous les moyens sont bons pour cela. Tous les moyens licites sont bons pour cela.
Pourquoi ils ont choisi l'internationalisation dans les années 80 ?
L'internationalisation, elle est déjà pensée, elle est déjà en germe dans la pensée de Hassan El-Banna, qui pour lui ne considère qu'une nation possible, qui est l'Oumma, qui devra de toute façon s'imposer au monde. Et pour cela, donc, il imagine une structure de type pyramidal, quelque chose qui va mailler le territoire. Et quand les frères musulmans arrivent dans les années 80 en France, eh bien, ils font la même chose, c'est-à-dire qu'ils se dotent d'un responsable avec un conseil et ils vont ouvrir des mosquées ou plutôt des centres islamiques un petit peu partout sur le territoire. Donc l'idée, si vous voulez, c'est d'éduquer et de former l'individu musulman avec pour l'individu la nécessité de convertir son entourage proche, entourage qui devra convertir son voisinage, etc. etc. Donc c'est, vous voyez, sous une forme concentrique. Donc l'individu va rééduquer la famille, qui va former la société musulmane, qui va se doter naturellement d'une gouvernance selon l'islam, qui va établir un État islamique, lequel va chercher à réunir les nations musulmanes, et tout sera donc donnera l'Oumma indépassable. Le recrutement, c'est quelque chose qu'on connaît bien maintenant pour les raisons que je vous ai données. Donc d'abord, on ne choisit pas d'entrer dans la confrérie. C'est elle qui vous choisit, c'est elle qui vous forme. Si vous êtes approché par un frère musulman, vous ne le savez pas jusqu'à ce que la confrérie ait décidé de vous recruter. Et donc à ce moment-là, vous devrez prêter serment et consacrer votre vie à elle. Mais en attendant, ça peut prendre plusieurs années, ça peut prendre jusqu'à 10 ans par exemple. Vous ne saurez pas, malgré que vous passez les étapes, que vous avez été approché par la confrérie. Une fois que vous êtes rentré dans la confrérie, il y a un certain nombre d'échelons à gravir, avec chaque fois des taquets, c'est-à-dire que vous ne savez pas ce que l'échelon supérieur a appris, jusqu'au guide suprême, si vous voulez. Donc, même si vous êtes dans la confrérie et que vous en sortez un jour, vous ne pourrez pas dire tout ce qui se passe dans la confrérie. Donc c'est un milieu qui se protège très bien. Le résultat, c'est qu'on a une confrérie qui est relativement, peut-être c'est des milliers de personnes, une dizaine de milliers, on ne sait pas trop, dans un pays comme la France, moi je pense que c'est plutôt quelques milliers, et des affiliés, c'est-à-dire un certain nombre de gens qui travaillent pour la confrérie sans savoir véritablement qu'ils travaillent pour elle. Et la DGSI a sorti il n'y a pas très longtemps un chiffre sur ce qu'ils appellent les fréristes, et ils estiment donc à 100 000 le nombre des fréristes en France. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au bout d'un an, en fait, la confrérie m'a éjecté du terrain parce que finalement, je n'allais pas dans son sens. Et la façon dont ils l'ont fait, c'était très simple. C'était de dire, elle est d'extrême droite, elle travaille pour la police. Et immédiatement, toutes les portes se sont fermées. Ça veut dire que les gens qui travaillent dans la confrérie, qui prétendent travailler ou avec les frères musulmans ou avec des gens qui seraient proches des frères musulmans, s'ils le font, c'est qu'ils ont passé un deal, un contrat, quelque chose. L'islamisation frériste, c'est l'islamisation des territoires, bien sûr. On a tous entendu parler des territoires perdus de la République ou des territoires conquis de l'islamisme. Mais c'est aussi l'islamisation par secteur. Ils ont imaginé des méthodes adaptées à nos sociétés pacifiées, sécularisées, organisées en secteurs, l'éducation, la santé, le sport, etc. C'est ça aussi la sécularisation. Donc ils nous ont observé notre fonctionnement, et ils ont adapté donc leur méthode d'entrisme, d'infiltration et d'influence à la façon dont on fonctionne. Je me souviens aussi quand j'étais avec les frères, ils animaient des groupes islamo-chrétiens, et dans ces groupes islamo-chrétiens, il y avait une assez forte dissymétrie, parce que c'était les curés et les prêtres qui parlaient beaucoup, et eux, ils ne disaient pas grand-chose. Et ça devait être normalement des dialogues de paix. Et en fait, ce que faisaient les frères, c'est qu'ils apprenaient le langage religieux dans un espace séculier. Donc ils faisaient du mimétisme. Tout ce que les curés et les prêtres disaient, ils le prenaient et finalement utilisaient cette façon de parler avec les politiques. Et c'est comme ça en fait qu'ils ont cultivé les relations avec les politiques, et avec pas mal de succès, puisqu'ils en ont retiré pas mal de mosquées. Les méthodes, donc, c'est l'entrisme, l'infiltration, le noyautage d'une association caritative, d'un syndicat, d'un parti politique, d'une grande entreprise, d'une salle de sport, etc., avec une préférence pour le conseil. On l'a vu, par exemple, lorsqu'il y a eu les attaques djihadistes, les premiers qui se sont précipités pour aider justement les élus, un peu démunis, voyant les gamins partir en Syrie, les parents affolés, etc., ils sont arrivés, on va vous aider, ces gens-là sont des extrémistes, on va leur apprendre ce qu'est l'authentique islam, celui qui... et on va remettre de l'ordre dans les cités, etc. Donc c'est les grands frères, ce sont les conseillers, et c'est comme ça qu'ils arrivent, en fait, dans les différents secteurs, sont toujours avec des arguments au nom de la diversité, au nom de l'inclusivité, bien sûr, au nom du féminisme, le féminisme islamique. Alors les priorités du mouvement islamique, c'est un document qui a été écrit qui est paru en 1990, écrit par Kardawi, dans lequel il invite le mouvement islamique à emprunter trois grandes directions pour les 30 ans à venir. Il dit, donc c'était il y a 30 ans, donc c'était à peu près au moment où je commence mes recherches, et je peux vous dire que c'était quand même c'était impensable ce qu'il avait prévu, ce qu'il engageait les musulmans à faire. Il dit, il faudra former une avant-garde islamique, la prise en main des écoles islamiques, des instituts de formation, et l'objectif étant de former une élite. Donc il faut contourner la question du politique, et passer par l'influence, la culture, l'économie, les influenceurs. Donc c'est 1990, je peux vous dire que c'était quand même assez difficile à penser à l'époque. Donc la formation d'une opinion publique que l'on aura débarrassée des effets de campagne de dénigrement de l'islam, vous avez la théorie de la lutte contre l'islamophobie, déjà en germe, avant même que paraisse le premier rapport sur l'islamophobie du Runimet Trust, c'était en 1995, c'était là. Donc on voit comment a été inspiré en fait ce rapport du Runimet Trust, je l'explique dans mon livre. Et enfin, la préparation d'un climat mondial d'acceptation de l'existence de l'UMA, ce que le marché halal fait particulièrement bien. Youssef El Kardaoui donc établit un certain nombre de grands domaines d'islamisation, de grands domaines prioritaires. Donc il voit l'éducation, bien sûr, et notamment l'entrée du voile dans l'école. Ça, c'est très important parce qu'il n'y a pas de société islamique sans une division sexuelle de l'espace et du travail. Donc il faut que les filles soient voilées. Il y a le politique. Alors ça va se traduire plutôt par ce que j'appelle des partis coucou, c'est-à-dire des partis qu'on va utiliser pour nourrir le coucou. C'est un oiseau qui fait couver ses œufs dans le nid d'autres espèces d'oiseaux. Donc utiliser des partis pour couver en fait les idées islamistes des frères. Le social, bon, ça on a tous entendu parler du fait que les frères donc utilisent tout ce qui est social, les maraudes, etc. Le sport, bien sûr, les hijabeuses, ça c'est aussi un moyen d'influence. L'économie, le marché halal global, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle Le marché halal ou l'invention d'une tradition. Et je vous montre justement comment ce marché a été produit de toutes pièces. C'est celui d'ailleurs qui m'a inspiré ce livre-là sur le frérisme. Le djihad, bien sûr, la ruse, donc un djihad du cœur, un djihad du cœur, ça veut dire l'influence, hein, ça veut dire la prédication, ou le djihad guerrier. La communication, Al Jazeera et sa petite sœur Agi+, et l'islamisation de la connaissance, qui est une discipline imaginée à partir des années 1980 par les frères musulmans et qui consiste à reprendre en fait l'ensemble des connaissances scientifiques et technologiques qui ont donné cette force à l'Occident et à les réintégrer dans le cadre de l'islam. Les masses, rééduquer les masses. Les banquiers et commerçants, ne pas se contenter de construire des mosquées, il faut aussi en faire des centres d'affaires. Les femmes, il faut former des femmes leaders islamiques dans les domaines de la mission, de la pensée, des sciences, de la littérature, de l'éducation. Vous les verrez par exemple au FEMISO, qui est une organisation européenne des sœurs, des frères musulmans, où il y a beaucoup de sœurs musulmanes justement qui se mettent en avant. Et les enfants qui doivent recevoir une éducation inspirée de soufisme, adoration de Dieu, en tout, partout, tout le temps, grâce notamment à une littérature et des jeux pour enfants qui sont des modèles d'éducation salafiste.
Que cette stratégie d'infiltration, puisque c'en est une, touche-t-elle aussi les institutions européennes ?
Elle touche évidemment les institutions européennes parce qu'il est important pour les frères musulmans de diffuser leurs pensées de façon le plus systématique possible à travers notamment la lutte contre le racisme, la lutte pour l'inclusion, pour la diversité, etc., etc.
Après la présentation de son livre, Florence Bergeau-Blacquer a répondu aux questions posées par le public, comme celle qui interroge de l'influence frériste dans les universités par le biais du wokisme.
Le problème, c'est que les islamistes, comme je vous l'ai expliqué, nous connaissent beaucoup mieux qu'on ne les connaît et ont un plan. Ils ont jamais oublié que leur objectif, c'est le califat et le remplacement de la société occidentale, impie, athée, etc., par l'islam. Donc, ils savent aussi qu'ils ne peuvent pas y arriver d'un seul coup, que ça leur prendra du temps et qu'ils ont besoin d'alliés. Donc ils sont allés chercher des alliés internationalistes comme eux, et la gauche l'est. Ils l'utilisent, mais provisoirement. Chaque frère musulman sait, ou chaque frériste, sait que c'est une alliance provisoire. Ils en rigolent d'ailleurs hein, sur les réseaux sociaux, de l'idiotie et de l'imbécilité de la gauche. Comme dit Ouria Boutelja, qui est une crypto-islamiste indigéniste, on va dire. Mélenchon, c'est une belle prise de guerre. Quoi. C'est un butin de guerre. Donc, ils sont très conscients parce qu'ils ont un cap. Tandis que les autres, à gauche, ne sont pas dans cette... Ils sont dans une perspective d'alliance pour l'alliance. Et moi, les frères, je ne comprenais pas pourquoi ils me disaient ça. Souvent, ils me disaient, mais... vous avez une société, elle est bien, nous on aime bien, enfin c'est très bien ce que vous faites. D'ailleurs, vous êtes plus musulmans que nous dans les pays musulmans, mais vous n'avez pas d'objectif. Je ne faisais pas trop attention à ça. C'est bien des années plus tard que j'ai compris que chez eux, c'était un moteur. C'était l'axe et qu'ils n'avaient que ça en tête. Et donc, pour répondre à votre question, le wokisme est effectivement l'idiot utile de ce système-là.
Il y a actuellement un mouvement qui grandit de par le monde. C'est le mouvement des ex-musulmans.
Oui.
Ils connaissent les textes courants, hadith, tafsir. Et qu'on ne peut pas accuser d'islamophobie ou d'être contre leur communauté. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer sur eux pour libérer la parole sur l'islam et sur l'islamisme, tout simplement ?
Vous avez parfaitement raison, et c'était la deuxième, j'allais venir à ma deuxième mesure pour lutter contre l'avancée de l'islamisme, puisqu'on ne peut pas lutter contre l'islamisme aujourd'hui, il est là. Donc lutter au moins contre son avancée, c'est effectivement de promouvoir la parole des gens qui représentent la liberté de conscience, et donc notamment des apostats, des ex-musulmans. Alors, je les connais un peu, il y a plusieurs mouvances déjà d'apostats, il y a les apostats déclarés, c'est-à-dire ceux qui luttent contre l'islam pour que les gens sortent de l'islam, qu'on peut appeler les apostats, et puis il y a les ex-musulmans, qui sont des gens qui sont moins prosélytes, je dirais, pour sortir d'appel à la sortie de l'islam. Et donc, dans ce groupe d'ex-musulmans et d'apostats, il y a des gens qui sont passés par le salafisme, qui ont été jusqu'au bout, du bout du littéralisme, parce qu'ils croyaient vraiment dans le message salafiste. Ils y ont cru, ils y ont tellement cru qu'ils ont été jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils disent tous et je suis tombée sur une incohérence. Et donc, je n'avais plus d'autre choix que de sortir. Et ceux-là ont une très grande connaissance, effectivement, des textes, de l'armature théorique, des différents courants, etc. Personne ne veut les publier. À l'université, ils ne sont évidemment pas les bienvenus. Personne ne voudrait soutenir une thèse sur des sujets pareils. C'est trop dangereux pour l'individu et pour le maître de thèse, le directeur de thèse. Mais en effet, je pense qu'ils font partie de la solution.
Une question concernant justement la manière de deviner, de décrypter si les frères musulmans sont présents derrière certains mouvements. Mmh. Et je pense notamment à des mouvements politiques ou même des décisions au plus haut niveau de l'État. Je pense au mouvement BDS.
Oui, bien sûr.
Et je pense aussi à la décision qui nous a tous absolument atterrés concernant Eurosatory, par exemple, et l'interdiction de la présence des entreprises israéliennes. Est-ce que dans ces deux cas-là, on peut essayer de deviner s'il y a des influences de ce type ?
Moi, je pense qu'il y a des influences, mais on ne doit pas forcément chercher le personnage. Le frérisme, c'est un peu comme le communisme. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être ni un militant, ni appartenir à l'appareil communiste pour en partager l'idéologie ou certains traits idéologiques. Donc, je pense que le frérisme a diffusé, avec l'aide du Qatar aussi. Hein, on ne peut pas exclure le fait qu'avec les mallettes du Qatar, on soit incité peut-être à avoir des positions assez dures par rapport à Israël, qui ne se justifient pas. Mais des influences, il y en a au plus haut niveau, ça c'est clair. Sinon, on ne se retrouverait pas dans une situation aussi incompréhensible à bien des égards. Le retournement, alors au départ, c'est plein soutien à Israël. Après, c'est oui, mais bon, il faudrait peut-être reconnaître la Palestine. Mais enfin, on ne va pas quand même le dire. Mais enfin, quand même, cette espèce de danse est vraiment très, très préoccupante. Il y a bien sûr la peur que les banlieues s'embrasent. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que moi, je vis souvent avec des policiers, que je remercie d'ailleurs puisqu'ils sont là. Ils confirment effectivement qu'ils sont retenus. Il y a une retenue particulière quand il s'agit de mettre de l'ordre dans les banlieues.
Une question, bonjour madame. Bonsoir madame plutôt. Bon, ça va. Je suis facile à relever. Voilà, je voulais revenir sur l'Europe. On a eu une conférence il n'y a pas tellement longtemps de monsieur Guessel qui nous expliquait que l'Europe s'est dotée d'outils extrêmement puissant, efficace pour lutter contre l'antisémitisme. Dans une de vos interventions avec Antoine Mercier, dans la table ronde, vous expliquiez que l'Europe continue à distribuer des fonds par intermédiaire d'associations caritatives qui en fait vont aux frères musulmans.
En fait, vous avez utilisé cette image, vous faites le parallèle entre les tunnels de Gaza et les tunnels virtuels ici, où les frères musulmans noyautent la société musulmane, et donc par ce biais-là, récolter un certain nombre de fonds. Je parlais également, toujours pour l'Europe, de cette commissaire européenne, Madame Dalli, qui avait sorti il y a 2 ans un rapport qui était censé parler du vivre ensemble, et qui en fait exclut énormément de gens, et d'autant plus qu'elle est extrêmement proche de ce mouvement que vous mentionnez, qui est la FEMISO. Et en fait, en dernier lieu, Urgence Palestine, qui a été également démasquée par cette journaliste, et qui a risqué sa vie comme vous, et qui n'aboutit à rien, puisqu'ils étaient en tête de cortège samedi à Paris. Comment est-ce qu'on explique tout cela? Merci.
Je suis en train de travailler d'ailleurs sur mon prochain livre sur ces questions-là, et je n'ai pas encore totalement résolu le problème. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il y a un certain nombre d'influenceurs qui jouent un rôle en effet qui semble être coordonné entre la coordinatrice justement de la lutte contre l'islamophobie ou la lutte anti-musulman, ce qui est à peu près en réalité la même chose pour eux. Ils sont nommés, on ne sait pas trop par qui, avec quel mandat, ce n'est pas très clair. Des gens qui sont en contact régulier avec la FEMISO et avec une autre association assez préoccupante aussi qui s'appelle l'ENAR, European Network of Against Racism, qui est un réseau donc, d'associations antiracistes qui reçoit énormément d'argent de l'Union européenne directement et indirectement. Ça fait effet levier. À partir du moment où vous avez 30% de financement européen, vous allez pouvoir lever des fonds de votre région, de votre municipalité, etc. Donc il y a énormément d'argent qui arrive à ces associations soi-disant antiracistes, mais qui sont en réalité pour moi des associations qui habituent et qui diffusent la pensée frériste.
C'était une partie de la conférence de Florence Bergeau-Blaquer, anthropologue chargée de recherche au CNRS, autour de son dernier livre « Le frérisme et ses réseaux ».